Bonjour, bienvenue sur ce webinaire consacré à la zéolite. Bonjour Cécile.
Bonsoir Benjamin et bonsoir à tous.
Voilà, bonsoir à tous. Donc ce soir, notre thème c'est la zéolite. Je serai donc accompagné de Cécile Silver qui est conseillère pour les produits à Apothicaria. Et je suis Benjamin Dupré, donc fondateur et gérant d'Apothicaria. Voilà, donc la zéolite, qu'est-ce que c'est? C'est une roche argileuse d'origine volcanique qui présente des caractéristiques spéciales d'un point de vue physico-chimique. Et ses qualités permettent des utilisations très variées dans des domaines comme la filtration, la dépollution, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse, pour la thérapeutique. Donc, en effet, la structure de la zéolite est très, très particulière puisqu'elle est en forme de cage. Elle a une espèce de charpente qui fait une cage et son affinité avec certaines molécules lui permettent de capter un nombre important de substances qui sont néfastes pour l'organisme ou pour l'environnement. C'est pourquoi elle est particulièrement connue pour la détoxification et en particulier pour les métaux lourds. Mais en fait, la détoxification métaux lourds, c'est une vision finalement assez réductrice de la zéolite. Moi, quand j'ai découvert la zéolite, en fait, c'est la première chose qui me venait à l'esprit, zéolite égale métaux lourds. Mais en fait, en creusant un peu le sujet, on se rend compte qu'il y a eu de nombreuses recherches dans différents pays et pour des applications très, très diverses. Et donc, en fait, pourquoi ce webinaire? D'une part, pour comprendre par quel mécanisme la zéolite peut évacuer un grand nombre de toxines, c'est très intéressant, mais d'autre part aussi pour pressentir qu'elle peut bien faire plus que simplement faire le ménage, et on verra qu'elle peut aussi participer à des processus de protection et de régénération de l'organisme. Concernant ce webinaire, on aura donc trois parties, enfin trois temps. En premier lieu, on vous présentera l'historique de la zéolite, tout en faisant un tour d'horizon de ses principaux domaines d'application. Dans un deuxième temps, on vous expliquera les caractéristiques chimiques qui lui sont très particulières. Et enfin, nous aborderons dans un troisième temps, et c'est ce qui nous prendra la majeure partie, l'usage thérapeutique, en essayant de couvrir un maximum d'applications et en essayant de vous donner les conseils pratiques. Voilà, donc du coup je donne la parole à Cécile qui va nous parler de l'histoire de la zéolite.
Alors, la zéolite a une histoire diverse. On sait qu'elle a été utilisée comme matériau de construction pour des édifices anciens, par exemple des aqueducs. Les Romains s'en servaient pour purifier l'eau, la rendre potable. Elle était utilisée aussi dans certains rites. Et l'histoire de la zéolite, dans son étude et les pratiques qui en découlent, ne commence véritablement qu'au XVIIIe siècle, au moment où certains esprits scientifiques s'y intéressent de plus près, sans savoir au départ s'ils sont en présence d'une roche qui est en fait un solide poreux, cristallisé, formé, comme vous l'a évoqué Benjamin, par sédimentation de couches de cendres et de roches volcaniques entrées en contact avec des eaux souterraines alcalines et des couches de dépôts organiques de bassins superficiels, et ça pendant des millénaires et des millénaires. Alors, cette aventure scientifique a une première date, celle de 1756. Cette date peut être retenue. C'est un minéralogiste suédois, Axel Cronstedt, qui découvre une pierre sur laquelle il mène des expériences et il se rend compte que cette pierre, chauffée au chalumeau, se met à bouillir. Et ce qui, plus tard dans le temps, sera confirmé et dont la cause est la libération d'une grande quantité de vapeur d'eau. D'où le nom qu'il lui donne, Zéolithe, du grec zéo signifiant bouillir et lithos pierre. Vous verrez plus loin dans l'exposé que cette zéolithe microporeuse est constituée, Benjamin vous l'a déjà dit, d'un réseau d'atomes d'aluminium et de silicium qui forment d'innombrables cavités et canaux. C'est surtout à partir du 19e jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs qu'on a pu recenser plus de 80 types de zéolithes naturels. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Alors, si l'année 1756 est associée au nom de Cronstedt pour ses observations et l'appellation de zéolithes, l'aventure continue au XIXe siècle, jusqu'à nos jours d'ailleurs, où les expériences et les découvertes se sont multipliées. Au XIXe siècle, on remarque certaines propriétés, celle d'être notamment hydratée, déshydratée. C'est D'Amour, en 1840, qui se rend compte, là aussi, fruit d'expérience, que la zéolite perd son eau en atmosphère sèche, comme sous l'effet d'une élévation de température, et qu'elle la récupère avec facilité quand elle est placée en atmosphère humide. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réversibilité. En fait, elle peut absorber des liquides jusqu'à 50% de son poids, et comme une éponge, sans modification de volume, le phénomène est cependant complexe, et c'est une propriété qui est très intéressante parce que la zéolite peut absorber des liquides autres que l'eau, l'alcool par exemple, et aussi des gaz comme l'ammoniac, nous le verrons plus tard. En 1858, découverte d'échanges d'ions avec la solution qu'elles absorbent, et ce sont ces propriétés d'échange et de capture d'ions qui seront mises en œuvre en 1986 sur le site de Tchernobyl. Et là, c'est la zéolite naturelle qui a été utilisée pour l'encapsulation des polluants toxiques, cation de césium 137 et de strontium, et pour les procédés de stockage. Voilà. Donc, je pense que là, par cette diapositive, il est important de garder à l'esprit que la zéolite ne rend jamais, mais jamais ce qu'elle piège, sauf dans des conditions extrêmement particulières et qui seront toujours hors de l'organisme, que ce soit un organisme humain ou animal. S'il existe plus de 80 zéolithes naturels, donc façonnés par le temps, diapositive suivante s'il vous plaît, on en vient à pouvoir créer des zéolithes synthétique dès la deuxième moitié du 19e siècle. Et c'est un chimiste français, Henri Sinclair de Ville, qui parvient à synthétiser une zéolite en laboratoire. Il l'a obtenue en chauffant un mélange aqueux de silicate de potassium et d'aluminate de sodium. À tel point que les expériences ont été continuées et qu'aujourd'hui on en compte jusqu'à 229. Ces zéolithes ont une particularité, ont des particularités spécifiques, c'est qu'elles sont extrêmement pures et de structure uniforme. Donc différentes des zéolithes naturelles qui ne sont pas très pures et pas de structure uniforme. Et ces zéolithes synthétiques sont formés à partir de la silice et de l'alumine qui sont en fait des composants terrestres très abondants. En médecine vétérinaire et humaine, on utilise une zéolite naturelle réduite en poudre ultra fine, comme vous pouvez le lire. La clinoptilolite, elle est reconnue et utilisée pour ses capacités d'absorption et d'absorption pour l'élimination des toxiques et ses propriétés antioxydantes et anti-inflammatoire. Voilà. Donc Benjamin vient de vous dire que ce dont ces zéolithes, principalement synthétiques, sont capables.
Alors en fait, la zéolite, c'est tout un univers avec de grandes productions dans des domaines d'application très 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 variés. Donc, on estime la taille du marché mondial de la zéolite aujourd'hui à 12,6 milliards de dollars. Et on estime que ça continue à se développer avec un taux de croissance de 6,2% par an, avec des investissements croissants dans l'utilisation notamment agricole avec les engrais et également le traitement des eaux usées et de l'eau potable. Donc en tête des utilisations, en tête de la plus grande part de marché, on retrouve donc l'agriculture suivie par le traitement de l'eau et aussi la purification de l'air. Et on voit aussi que la construction est un domaine important, puisque certaines zéolithes peuvent être utilisées pour fabriquer certains ciments. Et finalement, on se rend compte que l'usage médical est assez minoritaire. C'est un usage, je dirais, limité à une certaine forme de zéolithes et une certaine traitement de la zéolithes, hein, puisque c'est pas du tout la même chose d'utiliser une zéolithes non transformée, issue directement du sol et tout le processus utilisé pour transformer la zéolite pour qu'elle soit d'un usage médical. Parmi les espèces de zéolites naturelles, on distingue donc les naturelles et les synthétiques, et dans la catégorie naturelle, c'est la clinoptilolite qui sera la plus courante et qui représente 90% de l'extraction mondiale. Alors, les usages domestiques de la zéolite, comme on le voit, ça peut être utilisé surtout pour les lessives et pour adoucir l'eau, puisqu'en fait, on verra plus tard que la zéolite a des capacités d'échange ionique, hein, qui lui permettent d'éliminer le calcium dans l'eau dure. Suivent aussi les filtrations de piscine, qui contiennent souvent de la zéolite naturelle utilisée pour purifier l'eau en tant que sable et qui permet de retenir toutes les petites particules jusqu'à 5 microns et donc d'obtenir une eau cristalline. De même, on peut l'utiliser pour la potabilisation de l'eau, donc captée dans les rivières, dans les fleuves, les cours d'eau souterrains. Et ça permet de ne pas utiliser des produits chimiques. Une utilisation que je ne soupçonnais pas, c'est celle de collecteurs thermiques. Donc, on retrouve de la zéolite dans les pompes à chaleur à gaz qui, en fait, les propriétés. La zéolite permet d'absorber et de restituer également de l'énergie. Et donc, par un processus continu de formation et de vapeur et de condensation, ce rajout de la zéolite permet en fait d'augmenter et d'optimiser le processus de la pompe à chaleur. Et on commence aussi à intégrer la zéolite dans les panneaux solaires pour stocker la chaleur sur le long terme. Et donc, on retrouve la zéolite dans plein de produits d'hygiène et de cosmétiques, depuis les déodorants, les shampoings, jusqu'aux liquides pour animaux, puisque la zéolite permet d'absorber en fait environ 50% de son poids en liquide sans se dilater. Donc, c'est une utilisation assez pratique. Pardon. Les utilisations en agriculture. Donc, on va voir en fait les fonctions de la zéolite par rapport à l'amendement des sols et surtout dans les engrais, puisqu'en fait, elles permettent d'améliorer la structure des sols et de libérer lentement les éléments essentiels à la croissance des plantes, dont c'est par exemple l'azote ou le potassium. Elles ont aussi la capacité en fait à améliorer la porosité des sols, hein, puisqu'en fait le sol tel qu'il peut être maintenant, avec les tracteurs qui passent et qui repassent, on a une compression du sol qui fait que lorsqu'il y a une pluie importante ou même une pluie presque normale, on va avoir tendance au ruissellement de l'eau. Donc l'eau, au lieu de pénétrer dans la terre et de s'infiltrer pour aller alimenter les racines des plantes, elle va ruisseler enfin, au fond de la vallée. Le fait de rajouter de la zéolite au sol permet en fait d'augmenter la porosité du sol, ce qui favorisera donc la croissance des racines et l'infiltration de l'eau. Et donc la capacité des sols à retenir l'eau. Puisque en fait, c'est contradictoire entre on peut se dire que la porosité amènerait une perte de l'eau, mais en fait, la porosité permet une absorption par le sol de l'eau au lieu qu'elle soit lessivée et qu'elle ne serve plus à rien. La zéolite est également utilisée pour augmenter la rétention d'ammoniac. On verra que c'est pareil dans le corps. Et donc, réduire les émissions d'ammoniac issues du fumier. Donc, ce qui permet d'avoir moins d'effet de gaz à effet de serre. En ce qui concerne l'élevage, les zéolites intégrées à l'alimentation animale piègent les métaux comme le cuivre, le cadmium et le zinc et empêchent la transmission de ces métaux à la chaîne alimentaire. Donc ça, ce serait intéressant d'utiliser davantage de zéolites dans les élevages animaliers. Et c'est une bonne alternative, on le verra par la suite également pour le corps humain, c'est la même chose pour les animaux, c'est une bonne alternative aux antibiotiques. C'est d'ailleurs utilisé dans les fermes piscicoles pour purifier l'eau des poissons d'élevage, en éliminant en particulier l'ammonium. Je vais laisser maintenant Cécile nous parler de la chimie. Et du rôle de la zéolite en tant que tamis moléculaire.
Alors, est-ce que tu peux mettre la diapositive, Benjamin, pour que...
Alors, la mienne, sur mon écran, c'est bien un tamis moléculaire, c'est pas le cas sur l'écran.
Ah oui, d'accord. Alors, précision, qu'est-ce qu'un tamis moléculaire ? En fait, c'est un échangeur de cations pour piéger certaines molécules ou les extraire d'un liquide ou d'un gaz pour purifier ou séparer les substances. Alors, ce rôle de tamis moléculaire va de pair avec les phénomènes d'absorption et d'absorption. Comment vous dire cela? La zéolite est formée de canaux. Ces canaux, on le verra plus tard d'ailleurs, parce que la zéolite a une structure, une charpente qui est formée donc d'atomes, d'aluminium, de silicium, d'oxygène, et qui forme des enchaînements, qui s'assemblent. Et en s'assemblant, ils forment des réseaux poreux. Et ce sont les pores des zéolites ayant un diamètre qui est constant, quelle que soit la zéolite, le diamètre est constant propre à chaque zéolite. Et ce sont ces pores qui vont attirer, laisser rentrer des molécules de taille et de forme spécifique. Elles vont les attirer. Et donc, peut-être peux-tu passer la diapositive suivante.
Voilà. Il y a peut-être un temps de latence. Hein, parce que
merci. Ah oui, effectivement, il y a un petit temps. Pardon. Alors, c'est seulement depuis 1950, en fait, que l'on parvient à créer des zéolites synthétiques qui sont beaucoup plus intéressantes parce qu'elles deviennent de plus en plus pures et de structure totalement uniforme. Et ce sont elles qui sont utilisées dans l'industrie justement pour ce rôle de tamis moléculaire, donc pour piéger certaines molécules ou les extraire, pour purifier ou séparer des substances. C'est le cas même dans le raffinage du pétrole, donc dans le domaine de la pétrochimie, pour obtenir la production d'essence, et puis même sont des réactions en chaîne parce que par exemple pour l'essence, il y a aussi des phénomènes de craquage pour obtenir encore des sous-produits. Voilà. Ces zéolites synthétiques sont utilisées pour la filtration, la purification, la déshydratation des gaz industriels. On l'utilise aussi pour extraire l'oxygène de l'air en absorbant l'azote. Par exemple, cet oxygène est utilisé pour enrichir l'air des patients qui sont déficients pulmonaires. Benjamin vous l'a dit, on utilise des zéolites qui peuvent être naturelles, mais plus intéressantes si elles sont synthétiques pour le filtrage des eaux usées et pour pouvoir, par exemple, en industrie nucléaire, rejeter une eau qui soit pure, qui soit propre. Voilà. à bord de la station spatiale, spatiale internationale. C'est un filtre composé de zéolithes qui sert à filtrer le CO2 rejeté par les astronautes. Voilà. Il y a une illustration. Non, je parlais de l'illustration précédente, en fait, du tamis moléculaire, qu'il faut voir avec un œil et un esprit reposé pour voir la profondeur, en fait, des nanotubes. Non, c'est la page 10, en fait. Voilà, la diapo 10. Je vous l'ai dit tout à l'heure, le tamis moléculaire est... Oui, alors à ce moment-là, on peut passer à la... Pour bien ce phénomène d'absorption et d'absorption, il est complètement dépendant aussi des phénomènes d'adsorption et d'absorption. Page diapositive suivante, s'il te plaît, Benjamin.
C'est bizarre, c'est celle-là, oui.
Ah oui, c'est celle-là. Alors, oui, alors... comment ça se fait? Il y a un mélange de diapos là où je ne sais pas ce qui se passe. Bon, parlons du phénomène d'absorption et d'absorption, donc dépendant du tamis moléculaire aussi. Donc l'absorption, c'est le fait que la zéolite peut capturer, en tout cas les canaux de la zéolite va capturer, piéger, encager certaines molécules. Et l'adsorption, c'est la capacité des zéolites à fixer des gaz ou des liquides à la surface de leur structure. Et donc, elles ne vont, selon la structure et les pores, donc, elles vont laisser passer seulement certaines molécules dans leur réseau. Peux-tu donner la diapositive suivante? Voilà. Une illustration humoristique, sympathique, très parlante de ces phénomènes d'absorption et d'absorption. Peux-tu donner la diapositive suivante?
La suivante, c'est pour moi, donc je pense que c'est celle-là.
Ah, alors, non, je voudrais bien revenir quand même, voilà, sur celle-là. Merci beaucoup. Alors, qu'elle soit naturelle ou synthétique, les zéolites ont de multiples structures, effectivement, assez similaires cependant pour les synthétiques. Nous l'avons déjà évoqué, là, juste précédemment. Le squelette de la zéolite, le squelette atomique ou charpente, est constitué d'atomes d'aluminium, de silicium et d'oxygène. Ce sont des enchaînements qui s'assemblent. On le voit très bien par l'illustration, qui s'assemble, et en s'assemblant, ces enchaînements vont former un réseau poreux, régulier, d'où leur rôle de tamis. Je veux juste mettre un petit point à propos de l'aluminium qui pourrait faire trembler certains auditeurs. Donc, à propos de la zéolite, oui, la zéolite contient de l'aluminium, mais il s'agit d'un oxyde d'aluminium qui s'allie à l'oxyde de silicium. Et l'aluminium ne se présente donc pas sous forme libre, et qui là serait effectivement toxique et même très toxique, mais se présente sous la forme d'oxyde d'aluminium, donc non toxique. C'est la forme oxydée. C'est une précision d'importance. Chaque type de zéolite, vous l'aurez compris, qu'elle soit naturelle ou synthétique, se distingue par la taille et la forme de ses pores. Ces canaux sont chargés de cations, donc d'ions positifs, de sodium, de calcium, de magnésium, de potassium, qui se trouvent dans les cavités et qui compensent la charge négative de la charpente. Donc ces cations, qui sont faiblement liés à la charpente, sont facilement échangeables, nous l'avons vu là, ce rôle d'échange de la zéolite, sont facilement échangeables par d'autres molécules ou cations qui sont présentes dans l'environnement de la zéolite. Par ces différentes diapos, je pense qu'il est important de garder à l'esprit que par ses particularités structurales spécifiques, c'est-à-dire la structure en cage, le rapport silicium-aluminium de la charpente et la présence de cations mobiles, ils sont responsables tous des propriétés physico-chimiques particulières de la zéolite. Je te donne la parole, Benjamin.
Oui. Alors, du coup, on va passer justement à l'échange ionique. Donc, en fait, finalement, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Tu as déjà dit l'essentiel.
Mince alors. Aussi, peut-être.
Mais, si ce n'est que, on peut le voir d'une façon plus pratique avec, par exemple, sur l'échange entre le ion calcium et l'ion sodium. Donc, en fait, si on prend une eau riche en calcaire, ce qui peut arriver dans nos systèmes d'adduction d'eau, et qu'on met cette eau, donc qui est une solution finalement, on va dire, c'est une eau qui est une solution de calcium, et qu'on la met en présence de zéolite, d'une certaine zéolite, mais enfin je pense que c'est une zéolite, beaucoup de zéolites vont correspondre à ce cahier des charges, qui va avoir une affinité avec cet ion qui a calcium de par sa richesse en ion sodium. Donc, si cette zéolite répond avec sa taille de cavité et avec la présence du cation sodium, elle va permettre d'absorber, elle va avoir un échange ionique, c'est-à-dire qu'elle va échanger ses ions sodium avec les ions calcium présents dans l'eau. Donc, ça permet d'adoucir l'eau. Donc, si on a une eau chargée en calcium ou même en magnésium et que la zéolite est capable d'échanger ses ions sodium avec ses ions calcium et magnésium, on va avoir un adoucisseur d'eau totalement naturel et assez peu coûteux. La capacité de l'échange est en fait infini, sauf qu'il faut régénérer. C'est-à-dire qu'en fait, en l'occurrence, si on prenait une zéolite qui avait déjà adouci pas mal de mètres cubes d'eau, elle serait peut-être saturée du coup en ions, en cation calcium ou d'autres ions. Et à ce moment-là, il faudrait la rincer, c'est-à-dire lui redonner des ions. Donc à ce moment-là, on pourrait par exemple la rincer avec des ions, avec une solution de chlorure de sodium. À ce moment-là, on parle de régénération de régénération de cette capacité d'échange ionique. Donc, du coup, on a toutes les applications dont a parlé Cécile, notamment pour séparer le gaz. On peut aussi séparer certains gaz. Donc, par exemple, si on a de l'azote et de l'oxygène qui sont ensemble. Lorsqu'on fait passer ce mélange à travers un lit de zéolite, la zéolite va absorber sélectivement un type de gaz tout en laissant passer l'autre type de gaz. Et cette séparation est basée sur la taille et la polarité des molécules de gaz, ainsi que sur la taille des pores et la chimie de la zéolite. Et c'est le même principe qui permet de faire la dépollution de l'environnement dont on a parlé. Donc, on va pouvoir capter toutes sortes de métaux lourds par cette affinité d'échange ionique. Donc c'est un concept très important parce que ça permet de comprendre en fait tout ce qui se passe dans le corps humain quand on absorbe de la zéolite, pourquoi ça marche finalement, pourquoi ça permet de capter les métaux lourds comme on le constate maintenant selon différentes études. Alors voilà, on rentre dans l'application thérapeutique de la zéolite, donc comme on vous le disait, c'est par rapport à la clinoptyloïde, donc qui est une forme de zéolite naturelle et qui est la plus utilisée. Pourquoi celle-là? Parce qu'elle est, on a prouvé son innocuité. Donc, comme l'a dit Cécile, l'aluminium n'est pas un problème. Alors, il y a cette histoire d'oxyde d'aluminium, mais il y a aussi une autre chose, c'est qu'elle est complètement stable en milieu acide et en milieu alcalin. C'est-à-dire que la charpente de la zéolite, composée d'aluminium et de silice, entre autres, ne va pas se dégrader en présence de pH acide ou de pH alcalin. Donc, ça signifie que leur structure va rester toujours identique et donc il n'y aura pas de libération d'aluminium ou de quoi que ce soit dans l'organisme. Pour la silice, c'est un petit peu différent, on le verra tout à l'heure, parce qu'on peut, avoir la libération d'une forme de silice qui est en fait bonne pour la santé. Alors, tout ça, c'est des expériences qui l'ont montré, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des expériences in vivo, in vitro, donc que ce soit dans l'estomac, on a mis de la zéolite sur un pH de 1,5, il n'y a pas eu de souci. Donc, on l'a fait pareil sur des fuites biologiques, aucun problème. Et il n'y a pas eu de variation, ni elle n'est pas sensible non plus aux variations de température.
Dans l'organisme, hein, précisons, dans l'organisme.
Non, mais même à 500 voilà. degrés, il n'y a pas d'évolution. Elle subit des températures jusqu'à 500 degrés, elle ne va pas changer. Elle ne va pas changer de structure. Au-delà de 500 degrés, elle peut changer de structure et elle peut commencer à se liquéfier.
À changer sa structure, effectivement.
Ensuite, dans la littérature scientifique, on a donc aussi la preuve que, on a des recherches qui ont démontré que il n'y a pas d'altération de l'équilibre des oligo-éléments et des micronutriments dans l'organisme. Donc, il semblerait que la zéolite agisse sélectivement sur les substances toxiques pour l'organisme. Mais ne va pas piéger les ions utiles pour la santé. Alors, ça, c'est ce qu'on a constaté depuis longtemps. Mais il y a un principe de précaution qui vise à dire que, bon, en l'absence de preuves totales, on va conseiller aux femmes enceintes ou allaitantes et aux jeunes enfants de ne pas la prendre au cas où ça capterait quelque chose. Mais encore une fois, jusqu'à présent, on a plutôt constaté le contraire. On a constaté que c'était plutôt reminéralisant et que ça participait à l'équilibre en oligo-éléments et en micronutriments. Donc, alors l'activation tribomécanique, évidemment, c'est pourquoi cette activation ? C'est parce que la zéolite, quand on l'extrait, on a du caillou. Et lorsqu'on a ces morceaux de caillou, on va les moudre pour faire une sorte de farine. Ce qui est déjà une forme assez intéressante de zéolite. Mais on va aller un stade plus loin, c'est-à-dire qu'on va prendre cette farine et on va lui faire subir encore un deuxième broyage qui est en fait ce qu'on appelle l'activation tribomécanique, qui consiste en fait à mettre cette farine dans une centrifugeuse et les collisions, les multiples collisions à haute vitesse dans la centrifugeuse, sur les parois et sur les particules entre elles, vont réduire encore la taille pour arriver à une taille de 0 à 5 microns. Donc la zéolite que nous on propose, elle est garantie à 70% constituée de zéolite à 0,5 micron maximum. Donc il faut savoir que la surface d'absorption ou d'adsorption est multipliée par 1000 lorsqu'on passe du stade de farine au stade de zéolite microactivée par la tribomécanique. Alors, les conseils d'utilisation, comment ça s'utilise ? Alors, on considère que pour un adulte ayant un poids d'environ 60 kg, l'idéal c'est de prendre 6 grammes par jour, ce qui correspond en fait à 2 cuillères à café standard par jour. La contrainte de la zéolite, c'est d'avoir un écart de minimum 6 heures entre la prise de zéolite et la prise d'autres compléments alimentaires ou médicaments. Car en effet, la zéolite a un impact sur d'autres substances pendant au moins on pense au moins 6 heures, enfin au plus 6 heures, pardon. Donc, ce qui fait que, par exemple, si on prend la zéolite le soir après le dîner, à 22 heures, ça permet de prendre tout ce qu'on veut entre le lever au matin et 16 heures. On considère que quand on a pris un médicament ou un complément alimentaire à 16 heures, il ne devrait plus y avoir de soucis à 22 heures. Il y a des exceptions, c'est probablement pas tout à fait vrai s'il s'agit de médicaments à libération prolongée. Donc dans ce cas, il vaut mieux ne pas prendre de zéolite du tout. Ensuite, avant, après le repas, donc ça, ce n'est pas forcément une contrainte absolue, mais c'est mieux par rapport à l'alcalinisation du tractus digestif, hein, puisque la zéolite a un pH de 7. Donc, ça peut permettre d'avoir une meilleure digestion, d'alcaliniser le tractus digestif, hein, et donc d'améliorer certains métabolismes grâce à l'équilibre acido-basique du corps. D'autre part, on recommande de ne pas utiliser de cuillère métallique, puisque il peut y avoir un échange d'ions métalliques entre la cuillère et la zéolite. Alors, la durée de cure, on peut partir sur des cures de 3 à 6 mois. Donc, 3 mois, c'est déjà un bon nettoyage et en général, sur 6 mois, on a fait un travail. Ce n'est pas une règle absolue. On peut aussi tester juste sur quelques jours, sur un mois. Donc, on a la possibilité de faire une cure d'un mois et ça fait aussi un très bon travail de reminéralisation également. Donc, il n'y a pas de contrainte de faire minimum 3 mois. Pour ceux qui connaissent le dioxyde de chlore, nous, on n'a pas constaté qu'il y aurait de soucis à la prendre avec. Alors, pas exactement au même moment, mais le dioxyde de chlore étant un gaz, il va agir assez rapidement. Probablement, en 5 minutes, il est dans le sang et au bout de 2 heures, il aura fait son effet. Mais la zéolite peut être, à notre avis, prise concomitamment avec un écart d'une demi-heure ou une heure avec la prise de dioxyde de chlore. Alors, est-ce qu'il y a des contre-indications ou des effets secondaires? Je dirais qu'il n'y a qu'un seul effet secondaire qui peut vraiment être... c'est un peu comme l'argile, c'est le risque de constipation si l'hydratation n'est pas totalement correcte. Donc, ça peut être intéressant de bien boire pendant une cure de zéolite pour être sûr que le transit se fasse correctement. Après, donc, parce que la zéolite, comme l'argile, réabsorbe l'eau dans le côlon, donc l'eau qui forme les selles. Donc, certaines personnes ont rapporté avoir eu des effets de constipation qui peuvent être évités déjà en baissant le dosage et également en augmentant l'hydratation. Et je préviens aussi qu'il peut y avoir quelques effets de détox en début de cure. Donc, si on n'est pas sûr, on prend pas 6 grammes, on commence par une demi-cuillère et on voit comment on réagit. Les effets ne sont pas non plus extrêmement violents. Il peut y avoir un peu de maux de tête, de fatigue. Certaines personnes ont rapporté des éruptions cutanées. Voilà. On estime que ce sont des symptômes pas très difficiles à surmonter et en baissant le dosage et en augmentant l'hydratation, tout se passe en général correctement. On peut aussi mentionner, comme ce sont souvent des symptômes hépatiques, on peut faire des bains de pieds au chlorure de magnésium ou au sulfate de magnésium, ce qui accélère et aide au niveau de la détoxification de l'organisme.
Mettre une bouillotte sur le foie aussi.
Et également mettre une bouillotte sur le foie. Donc, ça va aider effectivement le foie à gérer la surcharge de toxines libérées. Je ne sais pas si tu as des choses à rajouter, Cécile, par rapport à l'utilisation de la zéolite.
Alors, souvent des personnes demandent si on peut faire du lait de zéolite ou de l'eau de zéolite. Qu'en penses-tu?
Alors, l'eau l'eau de zéolite, c'est-à-dire que tu mélanges la zéolite, tu laisses décanter et tu ne prends que l'eau claire, c'est ça?
Voilà, ce qui, selon moi, est absolument inutile. Autant pour, ça peut, il y a un côté intéressant pour l'argile, de faire du lait d'argile, c'est-à-dire de tout mélanger et de boire, ou de l'eau d'argile, laisser décanter le soir, le matin pour le soir ou le soir pour le lendemain. Donc là, pour des spécificités de, soit pour une détox vraiment totale avec le lait d'argile ou l'eau d'argile juste pour avoir un meilleur, en quelque sorte, hein, un meilleur transit, par exemple. Voilà.
Bah, en fait, je suis d'avis de ton avis, c'est que si on veut prendre de la zéolite, il faut la prendre.
Elle est intégrale parce que pour moi, ça n'a pas de sens étant donné toutes les qualités qu'elle a et de par sa structure, hein, tout ce qui a été évoqué auparavant, de ne prendre que l'argile qui aurait des que la zéolite qui aurait des décantés. Voilà.
Alors après, on peut le voir comme une purification peut-être physico-énergétique de l'eau qu'on va boire, c'est-à-dire que si certaines personnes veulent purifier leur eau, elles peuvent
Alors ça, c'est
utiliser l'eau.
différent. Ça,
Voilà.
c'est différent, Benjamin, tu vois, c'est comme pour l'argile. Voilà, on peut mettre une cuillère d'argile, comme on peut en parler Jade Allègre, si vous trouvez quelque part une eau que vous avez trouvée en randonnée ou en trek, vous devez purifier l'eau, c'est une possibilité, l'argile comme la zéolite. Voilà. Et dans les 5 minutes qui suivent, en principe, comment dire, la poudre d'argile, la poudre de zéolite descendant tout le long de l'eau, se décantant, va purifier l'eau et dans les 5 minutes, c'est fait, selon Jeanne Allègre, hein, voilà.
D'accord. Bon, ben, ah, ça va toujours trop vite.
Ah, toujours trop vite? Ah oui, là, tu as brûlé les étapes.
Alors, où est-ce qu'on était? Parce que.
page 17, en fait. Voilà, me
Non,
voilà.
non,
Alors.
j'arrive pas à voir. J'en ai une qui saute à chaque
Ah,
fois.
elle saute.
Voilà. Donc, en fait, c'est les capacités détoxifiantes à large spectre.
Oui, voilà. Alors, Benjamin a déjà abordé bien des points. La zéolite clinoptilolite, hein, nous sommes dans le cadre de la clinoptilolite, a un très large spectre d'activité. Déjà, elle possède un pouvoir de détoxication. Alors, elle va en détox, ça concernera les métaux lourds, les gaz, les mycotoxines et des produits chimiques. Alors, les métaux lourds, on a à l'esprit le plomb, le mercure, l'aluminium, le cadmium, l'arsenic, le nickel, etc. Et il faut se remémorer qu'à une certaine concentration et dans certaines parties du corps, les combinaisons, par exemple plomb, arsenic, mercure, vont entraîner des affections neurologiques. Que l'arsenic combiné au cadmium et au nickel, des affections respiratoires. L'arsenic à lui seul entraîne des affections cardiovasculaires. Et que l'arsenic à lui tout seul, le cadmium à lui tout seul, le nickel à lui tout seul sont réputés cancérigènes. Donc la clinoptilolite va pouvoir débarrasser le corps de ces métaux lourds, de même qu'elle élimine un gaz comme l'ammoniac, qui est le produit de la dégradation des acides aminés et transformé dans le foie en acide urique, en urée, pardon, donc en acide éliminé en acide urique. Ça concerne les personnes qui pourraient avoir notamment un régime riche en protéines. Donc la zéolite va non seulement éliminer l'ammoniac, l'acide urique, mais les cristaux d'acide urique et les calculs rénaux à partir de ces éléments alcalins. Elle va, comme vous le lisez, absorber les mycotoxines. Alors, c'est quoi les mycotoxines? Ce sont des toxines émises par des champignons, dont font partie les aflatoxines qui se trouvent dans le maïs, les arachides, le lait, les céréales. Et ce sont des mycotoxines produites par des moisissures, genre Aspergillus par exemple, Claviceps, Alternaria, et qui sont particulièrement toxiques. Ça entraîne tout de même, enfin, donc elles contaminent, ces moisissures contaminent les aliments que j'ai cités, aliments d'origine végétale, et qui vont entraîner des déficiences immunitaires, des cancers, des pathologies rénales, hépatiques. Alors, de même, les nitrates les nitrates vont réduire la capacité du sang à transporter l'oxygène. Les composés organophosphorés, eux, sont des produits chimiques de synthèse, les insecticides, les fongicides, vous connaissez tout ça, dérivés du phosphore et qui sont des neurotoxiques. Et puis les perfluorocarbures qui sont cancérigènes, des perturbateurs endocriniens qu'on retrouve dans l'eau que nous buvons, dans l'air que nous respirons, dans les poissons que nous consommons, dans les emballages alimentaires. Et les particules radioactives, on l'a vu avec Tchernobyl tout à l'heure en 1986. Donc elle va piéger grâce à ces canaux. Les pores qui vont former des canaux, elle va piéger tous ces toxiques, elle va les capturer, tout ce que vous voulez, les encager, les emprisonner, elle va les garder sans les rendre. Donc, toutes ces toxines seront ensuite éliminées par les voies naturelles, c'est-à-dire par les selles et les urines. Voilà. Alors, elle va protéger, autre particularité, la zéolite. Ah, alors, il y a peut-être, est-ce qu'il y a une, normalement, il y avait la protection des intestins.
Oui, c'est ce que j'ai à l'écran, mais il doit y avoir un temps de latence.
Ah, bah non, bon. Alors, elle protège les intestins. Pourquoi ? Parce que dans le corps, il peut y avoir des inflammations, une inflammation, qui est un mécanisme de défense naturelle face à une agression par un agent pathogène, notamment. Et la zéolite clinoptilolite va améliorer les capacités de défense immunitaire des muqueuses de l'intestin et du tube digestif. Alors, elle va réduire, elle ne s'affiche pas du tout là. Je crois que c'était la 17. Oui, c'est la précédente.
Ah, la précédente. Mmh. Ok. Qu'est-ce que j'ai en précédent?
Que nos auditeurs puissent avoir une diapositive sous les. Eh ben non, alors c'est la suivante ou la suivante? La suivante de la suivante. Eh ben non, alors il manque une diapo sur l'intestin.
Non, on est bien sur la diapo de l'intestin, peut-être que tu la vois pas.
Ah voilà, ça y est, elle est là, oui. Alors, donc la zéolite clinoptilolite va réduire les symptômes et les marqueurs biologiques de maladies inflammatoires chroniques. Alors les symptômes, ça peut être des douleurs abdominales, des diarrhées, de la fièvre, une anémie, une perte de poids. Et ça se traduit par médicalement par le syndrome de l'intestin irritable qui entraîne notamment une augmentation de la la colite ulcéreuse, la maladie de Crohn, le syndrome de l'intestin perméable, les remontées gastro-œsophagiennes. Elle augmente la production des lymphocytes, qui eux sont chargés de la destruction des antigènes d'une part, et d'autre part, deux modulateurs de la réponse inflammatoire, qui sont les immunoglobulines A et les interleukines. En réparant la muqueuse, eh bien, elle va permettre de réduire la perméabilité intestinale. Je l'ai évoqué, elle va soulager les patients des RGO, reflux gastro-œsophagien. Donc, il y aura des réductions de brûlure de l'estomac et des remontées gastriques. Et elle va permettre d'augmenter les bactéries immunomodulatrices que sont les bifidobacteria et les lactobacillus pour reconstruire le microbiote intestinal qui aurait été perturbé. Microbiote, là où les bactéries, les virus, les levures se côtoient et s'équilibrent, eh bien, sachant que les différents microbiote dont intestinal joue un rôle majeur dans la préservation de notre santé physique et psychique. La zéolite a une autre propriété, celle d'être antioxydante. Elle réduit le stress oxydatif en supprimant toute substance prédatrice d'oxygène que sont les radicaux libres. Elle va alors optimiser le métabolisme, le stimuler. Elle va rééquilibrer s'il y a des excès d'acidité, par exemple, rééquilibrer l'organisme. S'il y a des excès d'acidité, quand il y a une perte d'équilibre acido-basique, ou même les excès d'alcalinité, ce qui est extrêmement rare. Et rétablir dans l'organisme un pH neutre, idéal à 7. Voilà, c'est le pH urinaire dont je parle souvent et qui est une vitrine de l'équilibre général de l'organisme. Le stress oxydatif est responsable de plusieurs pathologies, de nombreuses pathologies, dont l'athérosclérose, l'insuffisance cardiaque, l'obésité, l'hypertension, les pathologies rénales, les maladies neurologiques, les cancers. Donc, gardons à l'esprit que la zéolite réduit le stress oxydatif. Et elle a des pouvoirs positifs sur le cerveau, ce dont va vous parler Benjamin.
Oui, donc en fait, le cerveau, l'intestin, le deuxième cerveau, donc le premier et le deuxième sont très connectés, et notamment par l'équilibre du microbiote, on va avoir un impact également sur le cerveau, l'équilibre du système nerveux central. Donc, on a observé une action souvent sur le stress et sur le sommeil. On a vraiment pas mal de témoignages sur le sommeil. Et je ne l'ai jamais trop expliqué autrement que par l'action sur l'intestin ou éventuellement par le rééquilibrage du pH, comme tu en parlais il y a un instant. Je pense qu'entre les deux, on a probablement l'explication de pourquoi ça permet de mieux dormir et pourquoi ça apaise, et pourquoi ça peut permettre de réduire, le stress. Alors, il y a aussi peut-être l'effet antioxydant, puisqu'on parle de stress oxydatif, effectivement. Plus on limite les effets du stress oxydatif, et probablement plus on arrive à limiter, le stress du système nerveux. Alors, la recherche s'est beaucoup penchée sur un cas, c'est la maladie d'Alzheimer. Et il semblerait qu'il y ait des pistes d'espoir par rapport à cette maladie. Ils ont fait pas mal d'études, enfin, ils ont fait en tout cas une étude qui a été pas mal publiée sur les souris qui ont reçu une supplémentation en zéolite et qui a induit une diminution conséquente de la bêta-amyloïde, qui est une protéine connue pour être impliquée dans la version humaine de la maladie. Donc, comme la maladie d'Alzheimer touche pas mal de personnes et qu'il n'y a absolument pas la moindre piste de remède en médecine officielle du moins, je pense que cette piste de la zéolite pourrait être intéressante. Il y a une autre explication, une explication aussi, c'est que on lit souvent les maladies neurologiques, dont Alzheimer, avec des intoxications aux métaux lourds. Donc, peut-être que le fait d'avoir une chélation des métaux lourds aiderait à avoir un rééquilibrage au niveau du système nerveux central. Par rapport à, il y a aussi un travail qui a été transmis notamment par Michel Daubenas sur la glande pinéale. Donc la glande pinéale, c'est une partie extrêmement importante et sensible de notre système nerveux central. On considère que c'est le chef d'orchestre du système endocrinien également. Et cette glande pinéale, selon certains chercheurs que je qualifierais plus d'intuitifs, parce que c'est des données qui n'ont pas été publiées par la science dure, donc la glande pinéale serait sensible à l'aluminium, au fluor, au glyphosate et au Wi-Fi. Alors l'aluminium et le fluor et le glyphosate, pourrait être assez bien gérée par la zéolite. Donc, Michel Dognat recommandait dans un article qui a été publié, je crois, en 2019, et dont tu m'as rappelé dans mon bon souvenir l'existence de cet article. Donc, je te remercie, Cécile. Effectivement, c'est un article très intéressant parce que il mettait l'accent sur le fluor, dont on ne parle pas tellement. Mais le fluor est quand même, alors en faisant des recherches, on voit que le fluor est répandu dans pas mal d'endroits, dans l'eau potable notamment. Dans certaines régions, il y a beaucoup de fluor dans l'eau potable, et également dans d'autres endroits comme les dentifrices, évidemment. Alors, qu'est-ce que l'on a si on a un problème de glande pinéale? Ben, on peut avoir de la dépression, de l'anxiété. C'est un chef d'orchestre au niveau spirituel et sexuel. Donc, on peut avoir aussi des problèmes d'insomnie, de stérilité, des baisses de facultés cognitives. Si on agit sur la glande pinéale, on va agir sur la mélatonine. Et la mélatonine, comme on le sait, favorise le sommeil. Donc, peut-être que là aussi, on aurait une connexion avec ces nombreux témoignages sur l'amélioration du sommeil. C'est qu'en libérant, je dirais, la glande pinéale de certaines toxines lourdes, on pourrait libérer la sécrétion de mélatonine et donc une amélioration du sommeil, puisqu'elle est, cette hormone est très importante pour la régulation des rythmes chronobiologiques. Je pense que voilà. On a aussi une action de la zéolite par rapport aux os et aux articulations. Alors, c'est un domaine qui a été moins étudié. Mais ça, on l'a aussi constaté en retour, en témoignage, qu'il y a vraiment une action intéressante sur l'ostéoporose et une prévention possible de la détérioration osseuse suite à des traitements peut-être chirurgicaux ou chimiothérapie ou le diabète. Voilà, donc il y a différents facteurs de déminéralisation qui peuvent exister. Et il y a une étude clinique qui a démontré que l'ajout de clinoprimodite au régime de personnes ayant l'ostéoporose permettait d'augmenter la densité minérale osseuse et permettait d'augmenter les marqueurs de la formation osseuse. Et une baisse de la douleur, donc effet anti-inflammatoire qui est quand même assez intéressant à avoir aussi. Donc c'est une étude de 2021, voilà, donc c'est une donnée assez récente. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pourquoi? Alors comme la zéolite n'est pas très connue pour régénérer, en fait, on pense que ça pourrait être la libération d'acide orthosilicique, qui est une forme de silicium biodisponible et qui permet de libérer du silicium organique, hein, donc utilisable par l'organisme pour se régénérer. Et donc pour ceux qui connaissent le silicium, on sait que il a des propriétés intéressantes au niveau de la synthèse du collagène, de la régénération du cartilage, et qui va être intéressant pour tout ce qui est articulaire musculo-tendineux. Après, c'est un effet qu'on ne connaît pas non plus suffisamment pour dire que ça va se répéter pour tout le monde. J'ai plus de recul avec le soufre organique. Là, on est sûr que on a prouvé de maintes et maintes fois que c'était un précurseur du collagène, que ça permettait de réduire l'inflammation, etc. Mais voilà, si on veut se détoxifier, on peut quand même avoir aussi un effet régénérant au niveau articulaire. Alors, je ne vais pas revenir sur tout ça, puisque finalement, tu en as déjà parlé.
Oui, j'ai évoqué tout ça, oui.
Il semblerait que, effectivement, la zéolite serait en contact avec les virus, capterait les virus, en contact avec les bactéries, capterait les bactéries. Et donc, elle est excellente par rapport au système immunitaire. Il y a une chose que je voulais rajouter, c'est par rapport à la zéolite d'argent. Donc, il y a une forme de zéolite qui a un petit peu été développée ou recherchée, c'est de mettre des ions argent dans la zéolite. Donc, comme on peut le voir, c'est au lieu de mettre des ions, au lieu que la zéolite soit riche en ions sodium et que les ions sodium puissent s'échanger avec des ions calcium, là, il semblerait qu'ils aient réussi à stabiliser dans la zéolite des ions argent. Et que cette zéolite d'argent libérerait donc ces ions argent dans l'organisme. Et comme on sait, les ions peuvent avoir un effet antiviral, antibactérien à large spectre. Du coup, ça pourrait avoir, ça peut ouvrir pas mal de perspectives, puisque si on arrive à faire ça avec les ions argent, on pourrait arriver à le faire avec toutes sortes d'ions, ce qui aurait été réalisé in vitro avec des ions de zinc, de cuivre. Avec des très bons résultats au niveau antibactérien. Et je profite de cette constatation par rapport à certaines études qui ont cherché à rendre la zéolite comme un transporteur de médicaments. Alors j'étais très surpris qu'on puisse, par exemple, acheminer dans l'organisme un médicament anticancéreux grâce à la zéolite, alors que par ailleurs, on sait qu'il ne faut pas prendre de zéolite en présence de chimiothérapie ou de médicaments, puisqu'on pourrait capter les substances médicamenteuses. Et en fait, je pense que ce qu'ils ont certainement dû faire à ce moment-là, c'est trouver une forme du médicament qui puisse être libéré, enfin, qui puisse être encapsulé dans la zéolite comme un ion disponible et à réussir à rendre cet ion disponible à ce qu'il se libère une fois qu'il est rentré dans l'organisme. Donc j'imagine que c'est ça l'explication qui permettrait de comprendre pourquoi on peut acheminer un médicament dans l'organisme. Donc voilà, ça. C'est une hypothèse, mais voilà, je pense que la recherche va dans cette direction. Voilà, et donc Cécile va nous parler du cancer.
Alors, comme nous l'avons vu précédemment avec Benjamin, et Benjamin l'a souligné, c'est à l'état de recherche, pour l'instant, à notre connaissance, hein, à l'état de recherche que de lier la zéolite avec certains médicaments pour utiliser la zéolite comme transporteur et pour multiplier l'efficacité d'un médicament. Alors, cependant, nous tenons à souligner que la zéolite aide à prévenir l'apparition des cancers par ses propriétés qui ont été évoquées tout à l'heure, hein, détoxicantes, antioxydantes, en débarrassant donc l'organisme toxique qui les cause. Comment dire, en améliorant le confort des patients aussi, en limitant les effets secondaires des chimiothérapies, des radiothérapies. Alors, pour une chimiothérapie, c'est peut-être délicat et je vais en parler. En revanche, une radiothérapie, tu me dis ce que tu en penses, Benjamin. Je crois que nous sommes d'accord là-dessus. C'est que par rapport à ce que nous avons pu lire, c'est que pour les radiothérapies, il n'y a pas de contre-indication à prendre la zéolite. En revanche, c'est beaucoup plus délicat pour les chimiothérapies. Pourquoi? Parce que il y a certaines chimiothérapies qui vont pouvoir accepter la zéolite, enfin certains médicaments et d'autres pas. Alors, nous savons très bien que la clinoptilolite est beaucoup utilisée dans les pays de l'Est, dans le milieu hospitalier même. Le docteur Ilse Tripnik, qui a commis un livre, en est l'illustration en Autriche, et selon elle, les effets secondaires, c'est-à-dire les mucosités, les gastrites, les diarrhées, les vomissements, sont moindres Alors, ça, c'est déjà une chose, et beaucoup mieux supportée. Les personnes perdent moins leurs cheveux, maintiennent leur masse musculaire et leur énergie vitale. Comment dire, la clinoptique permettrait aussi d'augmenter l'apoptose des cellules tumorales, donc la mort des cellules cancéreuses, et par ses capacités donc antioxydantes, et améliorerait aussi l'oxygénation de l'organisme. Cependant, on ne peut pas considérer par les études in vivo et in vitro que la clinoptilodite est un médicament anticancéreux. Elle peut prévenir, soulager, accompagner, ce qui est déjà d'un grand secours. Et je pense qu'il faut la prendre comme ça. Des personnes m'ont demandé si la zéolite peut être utilisée en dehors d'un comment dire après un cancer, oui, bien sûr, pour aider le corps à se détoxifier, pour tout ce qui a été dit précédemment. Il y a autre chose aussi pour les personnes qui passent un examen exigeant un produit de contraste comme une IRM. Oui, elles peuvent prendre la clinoptilolite après avoir passé l'examen. Voilà, pour se débarrasser de ces produits.
Je ne sais pas si on l'a mentionné d'ailleurs, mais la zéolite a été utilisée pour dépolluer les sites qui ont été victimes d'incidents nucléaires.
Oui, dont Tchernobyl. Oui, dont Tchernobyl, oui. Et notamment, pour dépolluer les eaux de rejet. Comme eau pure, donc rejetée dans les rivières et les fleuves. Et pour Tchernobyl, il y a eu des biscuits qui ont été distribués aux enfants qui étaient à base de clinoptilolite. Voilà. Et on revoit, grâce à la clinoptilolite, toute une végétation et des animaux réapparaître depuis quelque temps déjà autour du site de Tchernobyl.
Super.
Voilà. La zéolite, c'est tout ce que je peux dire. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter à propos du cancer, Benjamin ?
Non, non, tout est dit.
Non, voilà. La zéolite a d'autres qualités, a des qualités absorbantes, antibactériennes, détoxicantes, anti-inflammatoires. Elle est efficace en application externe sous forme de masque, de cataplasme, comme pourrait le faire l'argile, mais à puissance X. Voilà. Elles améliorent la vitalité, la régénération de la peau, tout comme l'argile, mais de manière plus puissante. On l'utilise de la même manière que l'argile. C'est-à-dire l'argile, vous la préparez dans un récipient qui ne soit pas métallique. Vous mettez une couche d'argile, vous rajoutez de l'eau, juste l'eau dépasse le volume de l'argile, de la zéolite. Vous laissez tranquillement la zéolite s'imbiber d'eau, et puis vous touchez, comme pour l'argile aussi, vous touchez la zéolite, et elle doit être comme une pâte à modeler, douce, ne pas coller, ne pas être sèche, douce comme une pâte à modeler, prête à l'emploi, et vous la mettez là où vous en avez besoin. Et très utile, donc, comme ce qu'il est noté, vous pouvez le lire, l'acné, la dermatite, le psoriasis, les mycoses ou candidose cutanée, etc., etc. Voilà.
Parfait.
Ce que je peux dire pour la peau. En conclusion, la zéolite clinoptilolite intervient à la fois en préventif, en curatif. Il y a des recherches pour les médicaments. Voir si on peut combiner médicaments et zéolites pour mieux acheminer les médicaments. Les soins d'hygiène, Benjamin en avait parlé au début, les déodorants, les crèmes de soins. pour des pansements aussi, associés ou pas à certains biocides. Ça, il existe un pansement qui a été utilisé, mais il faut faire ça avec grande précaution parce que la zéolite peut avoir, dans ces cas-là, amener des réactions indésirables. Il y a un pansement qui s'appelle Quick Clot, mais qui est utilisé par l'armée américaine. Voilà, et que dans des situations extrêmement urgentes, quand on ne peut pas faire autrement. Voilà, c'est dire que c'est vraiment en dernier recours parce qu'on sait que dans ces cas-là, ces pansements peuvent entraîner d'autres réactions de l'organisme. Benjamin vous a indiqué aussi quelles sont les indications, vous a donné les indications générales de prise de zéolite. Je pense que vous les avez mémorisées ou écrites. Si vous avez besoin d'autres dosages ou dans des situations particulières, eh bien, vous pouvez nous contacter. Et comme vous l'avez compris, eh bien, Apothecaria contribue à une meilleure santé grâce aux bienfaits de la clinoptilolite qu'Apothecaria vend. Voilà.
Donc, je crois qu'on a eu quelques questions dans le chat. est-ce que j'avais vu? Donc, une question rapport au système immunitaire. Est-ce que je peux l'utiliser par voie interne dans le cas d'une polyarthrite rhumatoïde qui est auto-immune? Aucun souci, puisque en fait, ce n'est pas. Déjà, ce sera reminéralisant anti-inflammatoire. Donc, a priori, ça devrait aider sur tous les symptômes de la polyarthrite. Et après, on a différentes possibilités de comprendre ce que c'est qu'une maladie auto-immune, mais on n'a jamais constaté que la zéolite ou même le soufre, par exemple, pouvait exacerber le système immunitaire dans le cadre d'une maladie auto-immune. C'est plutôt l'inverse, en fait. Ça va plutôt calmer les symptômes et ça peut aider à moduler l'inflammation.
Et si je peux rajouter une chose, de veiller à son équilibre acido-basique, voir s'il n'y aurait pas un déséquilibre qui est source de toutes sortes de troubles de santé et qu'il est important de vérifier.
Après, est-ce qu'il y a des contre-indications avec les huiles essentielles? Pas à ma connaissance. Évidemment, c'est toujours pareil, ne pas les prendre exactement pile-poil en même temps, puisque l'un peut absorber l'autre, mais à distance d'une demi-heure, une heure, je pense qu'une huile essentielle agit assez vite et ne sera pas affectée par la zéolite. Et la zéolite ne sera non plus affectée par l'huile essentielle.
Scanner, IRM, même chose, ne pas hésiter à prendre de la zéolite.
Donc la zéolite, ce sera disponible chez nous si vous le souhaitez en deux conditionnements. Et je ne sais pas si tu auras quelque chose à rajouter.
Non, en fait, non.
Bon, voilà, donc on va sortir un livre sur la zéolite d'ici un mois. Donc, si jamais vous voulez en savoir plus, notamment toutes les études qui ont été citées dans ce webinaire sont citées dans le livre. Donc, c'est un travail qui permettra de mettre en lumière toutes les sources utilisées pour pouvoir déterminer toutes les actions et toutes les applications de la zéolite. Voilà. Si tu n'as rien à rajouter, Cécile, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions.
Non, pas toutes. Oui, effectivement, il y a quelqu'un qui dit qu'en Espagne, un chercheur préconise la zéolite pour les gens vaccinés du Covid. Oui, parce que la zéolite va faire ce travail de détox, mais pas que, bien entendu. La zéolite ne suffira pas, malheureusement. Il y a l'histoire de l'oxyde de graphène qui peut être sur lequel le glutathion peut avoir une action. Il y a aussi le fait de se reminéraliser, renforcer son système immunitaire, par exemple avec du zinc, de la vitamine C. Il y a de nombreuses recommandations pour pouvoir retrouver un organisme qui fonctionne bien. Voilà. Différence entre l'argile et la zéolite. Alors, je dis toujours que l'argile et la zéolite ont les mêmes propriétés, sauf que la zéolite est beaucoup plus puissante, beaucoup plus puissante. Et on aurait, sinon on aurait utilisé l'argile, voyez-vous, pour toutes les techniques, ce qui a déjà été fait, mais pour toutes les techniques industrielles, ce qui n'est pas fait. On utilise la zéolite. C'est dire sa capacité de puissance.
Ouais, tout à fait.
Voilà. On me demande aussi, on nous demande si la zéolite agit sur les polypes de la vésicule biliaire et au niveau des intestins ou de l'utérus. Alors là, je pense qu'il vaudrait mieux voir bien autre chose.
Ouais, plutôt les enzymes, la bromélaïne,
Oui, la
voilà.
bromélaïne.
Et par rapport à l'intestin, revoir la paroi intestinale éventuellement avec, avec la glutamine ou avec le trichomore, avec le Digilance ou le trichomore.
On nous demande aussi si les métaux ont traversé la barrière hémato-encéphalique. Est-ce possible de les éliminer malgré tout avec la zéolite?
Bah, si tu veux parler de la zéolite liquide, enfin, moi je ne sais pas, mais.
Alors, vous avez une autre forme de zéolite qui circule, une zéolite liquide, qui serait dont les éléments seraient de taille nano, et qui là permettrait encore plus que la zéolite clinoptilolique de passer la barrière hémato-encéphalique. Déjà, nous ne l'avons jamais testé. Nous n'avons jamais testé. C'est vrai que nous sommes dubitatifs, mais nous ne l'avons pas testé. Et comment dire, déjà, la zéolite fait un beau travail.
Oui, même si ça le passe, que ça passe ou que ça passe pas la barrière encéphalique, hémato-encéphalique, franchement, on a de très bons résultats sur, sur le neurologique en général, sur le système nerveux central. Donc, je dirais, même si on n'a pas la réponse, on accepte les effets tels qu'ils sont et ils sont déjà merveilleux.
Oui. Peut-on en donner aux enfants? Si oui, en quelle quantité? Alors, nous vous l'avons dit, Benjamin vous l'a dit tout à l'heure, oui, avec prudence. Nous restons prudents. Mais la zéolite, piégeant les toxiques, il n'y a pas de relargage des toxiques dans l'organisme jusqu'à la libération par les voies naturelles. Mais même pas, je ne sais même pas une. Nous restons prudents sur la quantité, la posologie. Commencer, c'est comme pour certaines personnes qui seraient sensibles, hypersensibles à toute substance. Commencer par un dosage moindre, par exemple un quart de cuillerée à café, pendant plusieurs jours, et augmenter s'il n'y a pas de réaction, je dirais, délétère de l'organisme, augmenter et voir, observer comment réagit l'organisme à chaque fois, jusqu'à une cuillerée à café rase, et voire plus après.
Oui, il y a des personnes qui vont même au-delà des 6 grammes par jour. Hein,
Bien sûr.
je pense que c'est à chacun de voir ce qui convient, est-ce qu'on notre seuil de tolérance. Après, il n'y a pas vraiment de limite, il n'y a pas de toxicité connue, même à, je pense, enfin, je pense que même à 20 grammes par jour, il n'y aurait pas de toxicité. Donc, c'est simplement à quel seuil jusqu'à quel seuil on veut se positionner par rapport aux éventuels effets. Mais je pense que le mieux est l'ennemi du bien également. C'est-à-dire que si on veut accélérer, et ça répond à une autre question, c'est pour, si on veut accélérer la détoxification, certes, on peut l'accélérer en prenant plus, mais au risque de fatiguer et de ne plus vouloir la prendre. Donc je trouve que qui veut aller loin démarre.
Ménage sa monture.
Et va petit pas par petit pas plutôt que par des grands bonds.
Oui, ménage sa monture, elle a fait boire aussi, parce que pour les échanges, de la zéolite et le bon fonctionnement du tractus digestif et particulièrement du côlon, c'est important de boire de l'eau et de boire de l'eau tout au long de la journée quand on prend de la zéolite. Parce que la zéolite, pour agir, a besoin de cette eau. Sinon, elle va puiser dans le milieu environnant. Oui. D'où la constipation éventuelle.
Oui, oui, et puis ça va rester stagnant et ça va créer tous les symptômes désagréables qu'on connaît.
Oui. De toxicité, du coup, même si la zéolite est présente, et ben de toxicité due à la constipation, qui est une stagnation de tout ce dont le corps n'a pas besoin.
Bon.
La question a été posée aussi, charbon activé, zéolite. Alors, le charbon activé est très intéressant. Cependant, il capte tout sur son passage, contrairement à la zéolite.
Oui. Oui, c'est des cures de 7 à 10 jours hein, sur le charbon, donc c'est extrêmement efficace, mais extrêmement gourmand en toutes sortes de choses. On se déminéralise au-delà de 10 jours, on peut se déminéraliser.
Il faut faire très attention, oui, quand même.
Ça capte les enzymes aussi, les vitamines, donc voilà, à utiliser avec précaution, à la différence de la zéolite qui n'a pas
sélective. Sélective, de par toute sa structure, toutes ses propriétés physico-chimiques, en fait.
Alors, une question, peut-on utiliser la zéolite lorsqu'on prend de la L-thyroxine ? Donc ça rentre dans le cadre des médicaments et des compléments alimentaires, donc c'est les 6 heures d'écart qu'il faut respecter. Donc oui, on peut prendre de la thyroxine le matin et la zéolite le soir, et ça se passera très bien. On a pas mal de clients qui l'ont déjà fait, et ça n'a jamais été un souci. Mais je crois qu'on a répondu à peu près à tout. Maladie de Lyme.
Oui.
Maladie de Lyme, je pense que ça peut aider par rapport aux symptômes d'inflammation. Mmh. Et après, la maladie de Lyme étant une bactérie, un problème de bactéries, d'infection bactérienne, la Borrelia, entre autres, et avec des co-infections avec d'autres pathogènes.
Et caché derrière des films aussi, pardon Benjamin, je te coupe la parole, mais caché derrière des films, des biofilms, dont la zéolite ne viendra pas à bout à elle seule.
Oui, non, bien sûr, la zéoline ne peut pas tout faire, hein, mais ne sera pas totalement neutre non plus au niveau de la maladie de Lyme. Après, effectivement, il y a les biofilms, donc là, il y a la sérapeptase qui peut aider, et puis après, ce n'est pas un antibactérien en soi non plus, donc si on veut travailler sur la maladie de Lyme, il faut peut-être passer par des produits plus ciblés par rapport aux pathogènes. Donc, pareil pour la compatibilité avec les traitements anticoagulants et cardiovasculaires, enfin les anti-arythmies cardiaques, c'est pareil, 6 heures d'écart, donc un minimum entre les prises des médicaments et la prise de la zéolite. Et idem pour les compléments alimentaires, 6 heures d'écart. Donc, si vous prenez n'importe quel complément alimentaire, prenez-les par exemple entre le matin au lever et jusqu'à 16 heures et prenez la zéolite à 22 heures. Tout se passera bien. Bon.
Eh bien.
Merci pour votre attention et d'être resté jusqu'ici, jusqu'à 1h30 de débat sur la zéolite. Merci Cécile.
Merci Benjamin. Merci à nous deux. Merci à nos auditeurs et bonsoir à tous, celles et ceux qui nous ont rejoints ce soir. Et puis, nous saluons celles et ceux qui nous écouteront plus tard. Et nous espérons que vous aurez passé un bon moment, surtout instructif, en notre compagnie. Voilà.
Au revoir.
À plus tard. Au revoir à tous.